France Culture.
It's all recorded.
Okay, then listen. Let's not get caught.
The cameras and those wonderful people out there in the dark. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.
Il n'est pas de orchestra. It is an illusion.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Un voyage du côté de Détroit, Michigan, dans votre book club aujourd'hui. La grande cité américaine, autrefois fleuron de l'industrie automobile, devenue l'emblème d'une Amérique en crise, est à la fois le décor et l'un des personnages principaux de la dernière bande dessinée d'Hélène Usdin. Deux jeunes femmes à l'enfance cabossée y partent sur les traces de leur mémoire familiale trouée dans un road trip où passé et présent se superposent comme dans un rêve. Un livre qui déconstruit les mythologies américaines avec une profusion graphique étourdissante. Couleur à la Hockney, croquis à la pointe graphite, méandre labyrinthique façon Escher et photogramme cinématographique. On y nage en eau profonde et contaminée. Hélène Usdin est notre invitée. En fin d'émission, comme chaque jour, nous chercherons de la musique dans un livre. Elle est très présente dans celui-ci, on verra de quelle façon. On est ensemble pour une heure et on est ravis. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Hélène Usdin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci à vous.
Aujourd'hui, pour parler donc de ce livre, ce très beau livre, cette très belle bande dessinée qui s'appelle Détroit. Roma, vous la co-signez avec Bonnie, qui est par ailleurs votre fils. Elle a paru aux éditions Sarbacane. Elle vous a valu de recevoir tout récemment le prix France Télévisions. On est vraiment ravis de vous accueillir pour en parler. C'est votre deuxième bande dessinée après la très belle, le très beau René au bois dormant qui était paru en 2021 aux mêmes éditions Sarbacane. On va plonger tout à l'heure dans la matière de ce nouveau roman graphique. Mais pour commencer dans cette émission, on a l'habitude de découvrir, de faire connaissance avec nos invités en parlant de leur rapport à la lecture, au livre, comment ils sont arrivés dans leur vie notamment. Est-ce que vous souvenez de vos premiers contacts avec ces objets singuliers?
Oui, je pourrais me rappeler déjà des premiers livres, même quand je ne savais pas lire, donc à l'âge de 4 ans. Mmh. On habitait au Québec à l'époque avec mes parents et mes sœurs. Et je me souviens très bien de cet album de Peanuts, donc qui était en anglais puisqu'on était au Canada.
De Schultz, donc,
de Schultz, bandes dessinées de Schultz. Fait, et dont je comprenais ni les dessins, en fait, ni les textes. Parce que les dessins, finalement, étaient assez abstraits. La façon dont la niche de Snoopy, par exemple, est dessinée, il y a quelque chose de très logotype, en fait. Et moi, enfant, en fait, je ne captais pas trop tout cet univers. Mais donc, je demandais à des adultes de me raconter ce qui se passait. Donc ça, c'est, je pense, ça a été un peu... les prémices de la lecture. Et ensuite, comme tous les élèves de primaire, j'ai appris en sixième, mais je me souviens très bien des livres sur lesquels j'ai appris, puisque c'est des livres que j'ai toujours chez moi, dans ma bibliothèque. Ils ont réussi à survivre,
ouais.
De déménagement, d'abord de chez ma mère, puis jusqu'à chez moi, Bruxelles, Paris, enfin voilà.
C'est rare d'avoir gardé les livres dans lesquels on a appris.
Et donc
à lire.
J'ai encore mon nom à l'intérieur de la primaire, de CP. Et donc, il y en a un particulièrement que j'ai refeuilleté et je réalise à quel point je suis encore complètement imprégnée par les dessins. Parce que du coup, c'est des albums jeunesse. Et donc, c'est les trois chiens de Madame Grapinette.
C'est un titre délicieux.
Et les dessins sont de Sylvie Selig, qui est par ailleurs artiste plasticienne, j'ai vu ça. Et donc, c'est l'histoire d'un voyage, de trois chiens qui partent en voyage. Et qui retournent finalement chez eux parce que leur terre natale leur manque. Mmh. L'autre livre, c'était La chèvre aux cornes d'or. Et c'est à peu près une même histoire d'une chèvre qui part voyager et qui revient sur sa terre. Donc, je pense que c'était des thèmes déjà qui m'inspiraient. Le voyage, aller voir ailleurs, mais revenir en fait. Comment on revient? Quelle quête on fait aussi quand on quitte son territoire ou sa terre natale? Et donc j'ai appris à lire et je me souviens très bien de la sensation incroyable quand ces signes deviennent compréhensibles. Il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau de la jouissance de, d'une certaine manière de se dire waouh, il y a tout un monde derrière ça qu'on n'avait pas capté jusque-là. Un peu, je pourrais te dire, plus tard avec les mathématiques, quand j'étais encore une très bonne élève et bonne en mathématiques, et où il y avait cette joie, en fait, de comprendre à un moment donné le cerveau qui capte ce qu'il est en train de lire derrière ces signes, quoi.
On n'est pas tout à fait surpris de vous entendre parler tout de suite dans les tout premiers souvenirs de livres d'images, Hélène Husdin. Est-ce que une fois cette sensation extraordinaire de la découverte de pouvoir lire seul du texte passé, vous avez aussi eu des rencontres avec des récits textuels qui ont marqué aussi votre parcours d'une façon ou d'une autre?
Alors en fait, enfant, j'étais quand même vraiment attirée par la bande dessinée davantage que par les romans. Je me souviens très bien des romans de Roald Dahl. Je pense que c'était un des seuls que je lisais réellement, parce qu'il y avait aussi ce côté qui faisait peur, qui était drôle, enfin, qui ramenait aussi vers les contes. Parce que ça, les contes, c'est quelque chose que je lisais beaucoup, mais il y avait quand même toujours le dessin qui appuyait l'histoire.
Oui, et les dessins de Quentin Blake n'étant pas... Exactement, les illustrations de Quentin Blake pour les romans de Roald Dahl n'étant pas les pires qu'on puisse trouver dans le domaine du roman illustré.
Tout à fait. Et sinon... J'ai un souvenir très précis aussi de, à l'époque, donc c'était dans les années 70, enfin deuxième partie des années 70, et il y avait cette fabuleuse bibliothèque pour les enfants de Beaubourg, en fait, qui n'a pas existé très longtemps, mais où mes parents nous déposaient, ma petite sœur et moi, et où on allait passer la journée à lire.
Dans le centre Pompidou, ouais, à Paris?
Ouais, c'était un lieu qui n'a pas duré longtemps, je crois que ça a duré quelques années, 4-5 ans à peine, peut-être de 77, quelque chose comme ça. Enfin, là, vraiment la période où je lisais, en fait. Et en fait, ce qui était génial, c'est que c'était des genres de canapés, des boîtes dans lesquelles il y avait toutes sortes de livres, mais il y avait aussi des vidéos. Enfin, c'était multimédia, sauf qu'à l'époque, c'était hyper novateur. Et pour moi, je me souviens encore de cette joie quand mes parents nous lâchaient enfin là et qu'on allait, voilà, et qu'on lisait et que voilà. Donc là, j'ai vraiment appris le goût de la lecture. Mais le goût de la littérature, elle est venue très tardivement. J'ai pas eu de chance au collège d'avoir des professeurs de français très intéressants. Enfin, c'était pas tellement malgré eux. Je pense que c'était plus l'ambiance du collège qui était un peu chaotique. Donc, ça, c'est vraiment venu avec le bac français, en fait. Donc, assez tardivement au lycée où je me suis même vraiment mis à lire. Et puis après, maintenant, c'est un peu par période. J'ai des périodes où je lis beaucoup, des périodes où je lis moins, notamment quand j'ai un travail de dessin où je peux pas lire en même temps. Mais par contre, maintenant, j'écoute beaucoup de livres audio, en fait. Et c'est quelque chose qui est absolument inspirant aussi en travaillant. Ça permet aussi de lâcher le geste, d'écouter davantage que la réflexion qu'on a autour du dessin.
On entend souvent des dessinateurs, des dessinatrices raconter à quel point l'écoute de récits audio ou d'émissions de radio, ça fait toujours pour plaisir pour nous qui y travaillons, est importante dans leur quotidien. Vous disiez découverte quand même quelque chose qui se passe au moment du lycée, au moment du bac français. Est-ce que vous avez le souvenir d'auteurs, d'autrices, de textes en particulier?
Ouais, carrément. En fait, je me souviens qu'on avait des thèmes. Vous savez, comme c'était, bon, c'est peut-être plus comme ça maintenant. Mais du coup, on avait toute une thématique, tout un corpus autour de la guerre. Donc, on avait lu Voyage au bout de la nuit, Aurélien d'Aragon. Je crois que c'est vraiment ces deux livres, en fait, qui m'ont remis à la lecture. Je me souviens de Lumière d'août de William Faulkner, qui n'était pas dans ce corpus-là. Mais je ne sais plus comment c'était raccroché. Mais en tout cas, ces trois livres, c'est quelque chose qui m'a... donner envie de lire, en fait. Et comment ça se passe au bac français, on a juste des petits morceaux, en fait.
Mais... Oui, c'est par extrait.
C'est par extrait, c'est ça.
Mais ça vous a lancé pour plonger.
Et puis, je me souviens ensuite, au lycée, avoir lu Henry Miller, commencer à lire Philip Ross. Enfin, après, très rapidement, les auteurs américains sont rentrés dans mon cœur.
L'Amérique, décidément, c'est une sorte de fil rouge. Vous avez commencé par parler de Schultz.
Oui, c'est vrai.
Vous mentionnez Philip Ross. On va voir à quel point l'Amérique, elle est présente dans le livre d'aujourd'hui. Il y a comme ça une géographie dans vos lectures en général, que ce soit bande dessinée, roman ou autre. Il y a des zones géographiques qui sont plus présentes que d'autres.
C'est vrai qu'en bande dessinée, c'est aussi beaucoup les auteurs américains qui m'intéressent. Je pense que je les ai découverts dans les années 2000, au moment où l'association et Cornelius ont commencé à racheter des droits de Crumb, Daniel Klaus, il y avait Charles Burns, enfin voilà, tous ces auteurs américains, puis Adrienne Tomine, mais non, un peu plus tardivement, qui sont venus abreuver le pays avec voilà, toute une façon hyper singulière de raconter le quotidien, en fait. Il y a une part de fantastique ou de maladie mentale, qu'on peut imaginer dans Crumb aussi, mais qui viennent un peu, pas polluer, mais assombrir le quotidien, en fait. Il y a quelque chose comme ça que je trouve super intéressant dans la parole américaine.
Est-ce que au-delà de la découverte de ce territoire-là en bande dessinée, vous avez été aussi voir ailleurs ? Est-ce que vous avez été une lectrice méthodique, si je puis dire, c'est-à-dire voulant étudier ce médium-là, dont vous nous disiez que vous l'aviez découvert tôt et que ça a été assez vite une rencontre forte pour vous ? Est-ce que vous avez beaucoup, beaucoup lu de bande dessinée ? Est-ce que vous en possédez aujourd'hui beaucoup ? Est-ce que si on parcourt les rayonnages de votre bibliothèque, il y en a beaucoup, Hélène Usdin ?
Ouais, j'ai beaucoup de bandes dessinées, j'ai beaucoup de livres photos aussi, j'ai beaucoup de livres d'art. En fait, voilà, tout ça se mélange avec...
Qui sont autant de médiums que vous pratiquez, par ailleurs.
Oui,
hein. Vous
oui,
êtes venu à la
ouais,
bande
ouais.
dessinée relativement, tard
oui.
dans votre parcours.
Oui, il y avait la narration déjà assez tôt, avec des histoires que j'avais écrites, que j'avais mis de côté, sachant pas trop quoi en faire. Mais par contre, le médium bande dessinée, c'est arrivé à mes 50 ans. Donc en fait, on peut dire que c'est assez tardivement. Mais les livres, j'en possède beaucoup, mais même des romans, certains romans que j'ai pas encore lus. Beaucoup de livres que j'achète aussi pour l'objet, en fait. Je crois que je suis aussi très attachée, enfin comment dire... J'aime aussi le livre, en fait. J'aime
l'objet livre.
L'objet, ouais. Voilà. Et pour moi, c'est vrai que ma bibliothèque, elle est foutraque, elle est pas du tout organisée, mais c'est exactement la même manière que j'ai de lire, en fait. J'ai pas de schéma, j'ai pas de choses en me disant, ah, il faut que je lise ça ou quoi. C'est vraiment complètement par hasard, si j'entends quelque chose à la radio, justement, si on me parle d'un livre ou si, voilà.
C'est au gré des rencontres de hasard.
Au gré des rencontres, des hasards. C'est comme un cheminement, mais un peu aussi comme ma vie, en fait, finalement, quoi. Il y a rien de calé, il y a rien de réglé. Et en fait, ce que j'aime dans ma bibliothèque, là, maintenant, depuis que j'habite à Paris, j'ai vraiment un mur entier de bibliothèque avec tout mélangé, les romans, les albums photos, quoi. Mais justement, en fait, j'aime ce côté bordélique parce c'est autant de signes, en fait, à regarder d'une façon ou d'une autre, en fait. Ce serait un peu comme tous ces titres qui se mélangent, qui pourraient donner aussi une autre histoire, quoi. Et en fait, en parlant de ça, je me souviens très bien de la bibliothèque de mes parents quand on habitait encore tous ensemble, voilà. Ma mère lisait beaucoup, en fait, et il y avait cette bibliothèque avec plein de livres très mélangés entre le théâtre, les livres un peu plus politiques, des romans, les livres best-sellers genre Le Pull Rouge, enfin voilà, Le Pull Over Rouge. Et en fait, tout ça, n'ayant pas lu ces livres et les voyant plus comme des signes, petit à petit, je découvrais les titres. C'est aussi autant d'histoires, en fait, qui se créent par le rapprochement, en fait, entre deux livres qui n'ont rien à faire ensemble, quoi.
Là, deux livres qui sont posés l'un à côté de l'autre sur une étagère de bibliothèque, leur rencontre même spatiale crée quelque chose.
Vont offrir une autre histoire. Et en fait, c'est aussi la façon dont j'écris mes histoires. C'est vraiment et je fais mes couleurs aussi, en fait. C'est-à-dire que je pars pas avec une définition de palette de couleurs. C'est vraiment la rencontre entre les couleurs qui va être importante, quoi.
Je fais une petite boucle, je reviens au début de cette conversation. Vous disiez, je découvre les Peanuts de Schultz, je comprends pas vraiment ni les images ni le texte, mais je me les fais raconter. Et ça veut dire que, et pour en revenir aussi à la bibliothèque de votre mère, les livres, ça a été assez vite l'objet d'échanges, de discussions. C'était quelque chose qui était partagé dans votre entourage proche?
Oui, bah ma mère, alors elle aimait beaucoup le théâtre. Elle était elle-même comédienne, jamais professionnellement, mais elle a toujours fait du théâtre dès le Québec quand on habitait là-bas et jusqu'à sa mort en 2019. Et elle partageait beaucoup sa passion. En fait, c'était même un peu effrayant, en fait, pour moi enfant, de la voir endosser des rôles qui étaient des rôles dramatiques parce que c'était souvent Médée ou Antigone. Enfin voilà, des choses assez chargées, on va dire. Mais du coup, il y avait quand même une porosité, effectivement, entre l'amour de ma mère pour les livres et nous, enfants. Mais après, ça s'est pas passé, par exemple, en nous disant, tiens, lis ça ou quoi. J'ai l'impression que c'était un peu son univers. Je pense qu'aussi, c'était aussi peut-être pour cette raison, peut-être pas, que je suis pas venue à la lecture tout de suite. Et mon père, lui, est un amoureux des livres photos. J'ai toujours d'ailleurs son livre des lettres de Truffaut qu'il avait acheté.
La correspondance de Truffaut.
Exactement, voilà. Donc, en fait, c'est ça aussi. J'ai vraiment un attachement au livre, enfin, l'objet, en fait.
Comme porteur aussi d'une mémoire plus,
oui, c'est ça, exactement. Ouais.
On va aller vers votre bande dessinée, Hélène Usdin, des Trois Romas. On y est accueilli dans ce livre par une citation en exergue, des paroles qui ouvrent une fameuse chanson, signée Jill Scott-Heron et Brian Jackson. Chanson écrite en référence à un accident nucléaire survenu à Détroit en 1966. Détroit, qui est à la fois territoire et personnage dans ce livre. S'il n'est pas question de cette catastrophe-là, en particulier dans votre récit, il sera question de bien d'autres. On écoute Jill Scott-Heron.
It stands out on the highway like a creature from another time. It inspires the baby's questions.
What's that?
For their mothers as they ran. But no one stopped to think about the babies or how they would survive. And we've almost lost Detroit this time. Ever get over losing our minds? Just 30 miles from Detroit stands a giant power station. It ticks each night as the city sleeps. The seconds from annihilation. But no one stopped to think about the people or how they would survive. And we've almost lost Detroit this time. How would we ever get over losing our minds?
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Ça commence comme dans un rêve ou un cauchemar dont on ne percevra la force qu'à l'issue du voyage. Dans une scène dessinée au stylo bille à couleur, une tigresse rôde dans une ville américaine en ruine. L'animal s'avance vers deux nourrissons qui hurlent au creux d'un pneu de voiture, puis les laisse s'abreuver à ses mamelles, telle la louve avec Romulus et Rémus. Dans votre dernière bande dessinée, Hélène Usdin, vous nous mettez dans les pas de deux jeunes femmes, Becky et Summer, parties en quête de leur histoire et de la mémoire d'une ville, Détroit. Pour en résumer l'intrigue, on pourrait dire qu'il s'agit d'un road trip depuis cette ville symbole d'une Amérique en faillite, jusque dans l'ancien Sud ségrégationniste. Mais on aurait tort de se représenter une route rectiligne. Cette histoire progresse par méandres, superposant constamment passé et présent, images oniriques et cartographies, couleurs et noir et blanc. Le motif essentiel ici, ce n'est pas la ligne, c'est la courbe. On circule dans cette histoire comme dans une eau boueuse et contaminée, à l'image des eaux de la ville de Flint, au nord de Détroit, victime collatérale de la faillite économique et d'autorités corrompues. On sort de cette lecture comme de celle d'un conte qui dirait aussi l'envers du rêve américain. Détroit Roma, c'est le titre de cette bande dessinée. Elle a paru aux éditions Sarbacane. Vous la co-signez avec votre fils Hélène Usdin, Bonnie. Et on vous retrouve pour en parler avec vous. Je le disais tout à l'heure, c'est votre deuxième bande dessinée. Vous avez pratiqué bien des médiums, hein, la photographie, l'illustration presse, l'illustration jeunesse, la peinture. Vous aviez signé il y a 4 ans cette première BD René au bois dormant qui évoquait la rafle d'enfants autochtones au Canada dans les années 60 et 80, enfants confiés à des familles blanches. On reste sur le continent américain pour ce nouvel opus, mais dans un territoire différent. Comment est-ce que vous en venez, quelques années plus tard, à vous intéresser cette fois-ci à Détroit? Comment vous atterrissez, si je puis dire, dans le Michigan?
Eh ben, je me suis retrouvée à Détroit vraiment complètement par hasard. C'est un peu toujours la même histoire. On m'a proposé de faire une exposition de mon travail photographique à l'époque, c'était en 2014, dans un petit musée qui était au nord de Détroit, qui s'appelle Troy, la ville s'appelle Troy. Et c'est un musée sans prétention, pas beaucoup d'argent. Donc en fait, ils me proposaient de venir, de me payer, en fait, de tout défrayer, d'habiter chez le directeur. Et puis voilà, donc moi j'étais évidemment hyper emballée, surtout que Détroit, bah, il y avait quand même une image déjà très sulfureuse en fait de cette ville, mais aussi avec un fort fort bagage culturel, musical,
fort imaginaire,
ouais. Fort imaginaire, exactement. Donc
c'est la ville de la Motown, c'est la Motor City,
exactement.
C'est la ville de la Motown au sens musical du terme.
Ouais, c'est ça. Et puis il y avait aussi toutes ces histoires autour des émeutes de 67. Enfin, il y avait vraiment culturellement, socialement, c'était très fort. Donc c'est là où je suis allée la première fois à Détroit. Et puis, je suis tombée amoureuse de la ville, en fait, vraiment, littéralement, de ces espaces, de la géographie de la ville, la façon dont les ruines venaient grignoter les anciens buildings des années 20, qui sont autant de merveilles de l'art nouveau. En fait, il y a vraiment comme ça des couches successives historiques, urbaines dans cette ville qui sont hyper inspirantes. Donc j'y suis retournée pratiquement chaque année, en faisant soit des échanges d'appart avec des gens que j'avais rencontrés là-bas, soit ensuite en rencontrant une personne qui est un peu un mécène et qui me proposait en fait d'habiter dans un de ses appartements, jusqu'à effectivement faire ce livre We Are Woodbridge en 2020, qui est un focus sur un quartier, mais du point de vue des habitants. C'est-à-dire que je me suis pas...
Livre de photographie.
Un livre de photographie, oui. Je me suis pas tant intéressée que ça aux maisons, qu'on avait déjà quand même beaucoup vu, mais plus aux gens qui y habitaient. Donc,
c'est une série de portraits.
C'est une série de portraits dans un quartier bien spécifique de Détroit qui s'appelle Woodbridge, qui est un des plus anciens quartiers, avec des très anciennes familles noires américaines, mais aussi des gens plus jeunes, même une population aujourd'hui qui vient de New York, ne pouvant plus se loger à New York. Enfin, ça se gentrifie effectivement aujourd'hui. Donc voilà, mon lien avec Détroit s'est fait comme ça.
Et de là, de cette rencontre et de ce coup de foudre pour la ville et pour ses habitants, comment vous en venez à ce récit qu'on a sous les mains quand on lit cette bande dessinée, qui est un récit extraordinairement raffiné dans sa narration. C'est-à-dire qu'on est constamment pris entre le présent, donc de ces deux jeunes filles qui, je l'ai dit, vont traverser, faire un trajet depuis Détroit jusqu'à Roma, en Géorgie, mais ça, je le dis pour présenter les choses, mais en réalité, même ça, on ne le comprend qu'assez tardivement dans le récit, parce qu'on est d'abord dans le présent de ce voyage et les racines passées, mais passées au sens d'un passé ancien à l'échelle de leur famille, de cette histoire. Au début du livre, il y a la voix off de Becky, hein, qui nous accompagne tout du long et qui nous dit dans l'une des toutes premières planches qu'elle a un rapport synesthésique aux dates et au calendrier, que sa mémoire est comme organisée en tiroirs de dates, et on voit se représenter sur une double page plein de tiroirs. C'est un très beau dessin en noir et blanc. Et elle dit « Les événements les plus récents n'effacent pas les plus anciens. Ils se combinent à la manière de calques superposés. » Et cette image des calques qui se superposent, on a un peu l'impression que c'est aussi une bonne image pour décrire l'organisation narrative même du récit. Comment vous en êtes venu à cette histoire-là et à cette construction-là, Hélène Usdin.
Oui, tout à fait. Je pense que cette bande dessinée, elle s'est construite comme une ville se construit avec ses strates, en fait. Et c'est ça aussi l'intérêt des ruines citadines, enfin des ruines urbaines. C'est comment, dans une ville, on voit les différentes époques à travers la pierre, à travers les panneaux, enfin voilà, toutes les peintures murales, etc. Comment le livre s'est construit, c'est que donc il y avait d'abord en premier lieu cette envie de raconter quelque chose sur cette ville, parce que symboliquement c'était tellement fort en fait tout ce qu'on pouvait raconter sur l'Amérique, sur le capitalisme, sur aussi l'industrialisme en déclin. Enfin, il y avait beaucoup de thèmes à traiter, la précarité, le déterminisme social, tout ça c'était des thèmes qui sont une envie en fait de traiter tout ça. Et ensuite, j'avais pas envie de repartir seule comme ça a été le cas pour René au Bois dormant sur une nouvelle bande dessinée, parce que faut savoir que c'est très long en fait de faire une bande dessinée. Donc c'est là que j'avais lu deux scénarios que Bonnie avait écrit, lui-même ayant suivi des cours à UCLA à Los Angeles. Deux scénarios, donc des scénarios très bien écrits, avec une ambiance assez particulière. Et donc je me suis dit, ah bah, comme on a quand même eu l'habitude de travailler régulièrement ensemble, mais plus lui en musique et moi en vidéo, voilà, c'était une envie comme ça de travailler avec lui à un moment donné. Aussi peut-être de se dire, bah, on n'est plus, je suis plus, enfin, on fait évoluer aussi nos rapports entre nous, mère et fils aussi. Je pense qu'il y avait aussi cette volonté de se dire, bon, voilà, c'est bien de construire autrement, voilà, notre mission autour du travail. Lui-même étant artiste, compositeur, auteur, voilà, ça c'était très bien. Et ensuite, bah, ça a été un très très long travail de 3 ans et demi d'écriture, donc de la narration, donc de la fiction, mais aussi en parallèle de recherche pour bien implanter en fait cette histoire, autant dans un passé commun qui peut être le passé des esclaves noirs, mais qui peut être aussi le passé des classes plus pauvres qui sont effectivement à Flint ou à Détroit, mais aussi placer ça dans un contexte de polarité de l'Amérique qu'on sent très bien à Détroit, puisqu'il y a quand même cette classe très riche qui vit aux côtés de ces classes très pauvres. En fait.
Et ça, c'est une dualité qu'on retrouve dans les deux personnages, hein, des jeunes femmes qui sont les deux héroïnes de ce récit. Becky, c'est une jeune femme noire américaine et elle est issue, on va le découvrir, de la lignée d'une femme qui a été longtemps avant esclave. Et Summer, elle, est la fille d'une femme qui s'est retrouvée héritée d'une très grande fortune et qui vit dans une très grande maison. Juste pour préciser.
Oui, c'est ça.
De quelle manière ça s'inscrit dans l'histoire.
Exactement. Donc, avec tous ces thèmes qu'on avait envie d'aborder avec Bonnie, plus le thème du scandale de l'eau à Flint, qui est arrivé, en fait, vraiment la première année où je suis allée à Détroit. Donc, en fait, c'était vraiment aussi concomitant à mon histoire personnelle et intime avec cette ville.
Est-ce que vous pouvez rappeler qu'est-ce que c'est le scandale de l'eau à Flint? C'est l'un des éléments qui autour duquel tourne aussi une forme de suspense dans le livre. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses dans ce livre, il y a beaucoup de styles qui se rencontrent, mais il y a aussi quelque chose presque d'un thriller parfois. Il y a des politiques corrompus, ils interviennent en fond, mais quand même, il y a cette atmosphère-là aussi. Qu'est-ce que c'est le scandale de l'eau à Flint?
En fait, quand la ville a été déclarée en faillite en 2013, l'année suivante, en 2014, le gouverneur, qui était à l'époque Rick Snyder, a voulu faire des économies pour la ville et a décidé de changer le raccordement de l'eau potable dont bénéficiait Flint. Il a arrêté ces canalisations pour le raccorder à son ancien réservoir
qui était réactivé un vieux réservoir,
vieilles canalisations qui n'avaient pas servi depuis très longtemps, donc qui était bourré de plomb, abîmé, et ils ont plus, donc la population de Flint, qui est quand même vraiment la population très pauvre en fait, n'a plus bénéficié de l'eau raccordé au lac Huron, mais s'est retrouvé avec de l'eau finalement qui sortait au marron orange des robinets, et très vite, en fait, très rapidement, les gens sont tombés malades. Beaucoup de personnes sont mortes, Ce que j'ai aussi découvert en creusant un peu, c'est que le silence des victimes a été essayé d'être acheté, enfin voilà. Et puis également, toutes les personnes très fragiles, donc les plus vieux qui sont morts à l'hôpital, on a passé sous silence la réelle cause de leur mort en faisant passer ça plus pour une pneumonie que pour des cas de légionellose ou de bactéries qui auraient pu être dues à l'eau polluée. Donc ça, c'est vraiment un sujet qu'on voulait implanter dans notre histoire. Mais après, une fois qu'on avait tous ces thèmes, vraiment, on a construit l'histoire de façon très organique, en ayant envie, Bonnie et moi, de personnages très forts, en fait. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une bande dessinée documentaire. On ne revendique pas un travail journalistique, parce que ce n'est pas ni son travail ni le mien. On a envie de raconter une histoire, et c'est vraiment par la force de la fiction, mais aussi par la force des personnages, de leur action, de la façon dont ils vont interagir avec les autres, qu'on va en fait pouvoir véhiculer la précarité, les rapports de classe, la difficulté quand on est noir et qu'on n'a pas d'argent de vivre de son art. Enfin voilà, c'est tout ça en fait, c'est grâce aux personnages en fait qu'on a mis en place cette histoire. Et dernier point, c'est que ce maillage en fait très complexe, on peut dire, entre le passé, le présent, le road trip, la mémoire de Becky, il s'est construit sur un temps très long, sur ces 4 années en fait, jusqu'à même à la toute fin de notre travail, on était encore en train de réfléchir à quelle scène, un peu comme dans un film, dans un montage de film, quelle allait être la scène de départ. Tout ça en fait a évolué vraiment jusqu'à la fin, quoi.
Ouais, d'ailleurs ce questionnement, il est présent dans la bande dessinée même, puisque il y a une phrase qui revient comme ça en refrain, ça pourrait commencer comme ça, et on va comprendre qu'en fait ce à quoi on assiste, c'est aussi un récit. Tout ça a aussi été pensé dans la perspective d'une histoire. On va revenir sur tout ça, mais je voudrais qu'on écoute Céline. Elle est auditrice du Book Club et elle a lu cette bande dessinée. Hélène Usdin, elle vous adresse une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Hélène. J'ai lu Détroit Roma et ce qui m'a vraiment frappée, c'est cette sensation de défragmentation, à la fois dans la forme et dans le fond. Le récit suit Becky et Summer à travers l'Amérique, mais il est fragmenté, un peu comme un carnet de mémoire ou de dessin. Ce qui est incroyable, c'est que malgré cette fragmentation, on sent la vie des personnages. Et tout cela reste profondément cohérent grâce au dessin. Chaque image, chaque style, chaque détail contribue à cette atmosphère étrange et unique. En refermant le livre, on a le sentiment d'avoir compris l'essentiel, mais en même temps, il reste toujours quelque chose qui nous échappe, et c'est ce qui rend la lecture si marquante. Alors ma question pour vous serait, comment avez-vous travaillé pour que ce récit fragmenté, et ces dessins si différents, puissent raconter ensemble la même histoire? Merci pour votre réponse.
Merci à vous, Céline. Comment travailler pour qu'avec la fragmentation subsiste quand même une cohérence?
Eh ben, merci pour cette question. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on a travaillé. On n'a jamais eu un seul moment un récit écrit linéairement du début à la fin.
Il n'y avait pas de synopsis rédigé, quoi.
Il y avait une idée, on savait où on allait, mais c'était tout. Et on avait des séquences, c'est-à-dire on avait des scènes hein, qu'on savait vouloir dans la bande dessinée, mais par contre. L'organisation entre elles, c'était très flou jusqu'à la fin, mais c'était volontaire, enfin c'était totalement assumé d'avoir effectivement l'impression d'un puzzle, parce que vous mentionnez tout à l'heure qu'on est presque dans un thriller ou dans un roman noir, mais c'était aussi une envie qu'on avait avec Bonnie de circuler comme ça dans quelque chose d'assez poisseux, d'assez d'assez boueux, de pas vraiment savoir, de perdre parfois vers des pistes qui ne sont pas forcément celles qu'on va forcément développer par la suite, en fait. Donc tout ça, c'était très volontaire. Mais c'est aussi, je pense, ma façon de travailler à moi, à l'instar de cette double page que vous mentionnez au début, de comment la mémoire se range. Je pense réellement que la mémoire, en fait, elle ressurgit par bribes, par morceaux appelés par le présent à un moment donné qui vient nous rappeler quelque chose. Donc cette façon, ce va-et-vient entre le présent, le passé, la mémoire, il y a quelque chose qui n'est pas du tout linéaire dans la vie. En fait, on est quand même constamment en train de vivre entre le passé, le futur, le présent, avec un chaos plus ou moins ordonné. Donc je pense que c'est ça vraiment qu'on avait envie de faire ressentir dans la bande dessinée, en fait. Et donc je pense aussi qu'il y a un moment donné, au moment de réaliser les planche, mais aussi en amont le storyboard. Il y a eu un vrai lâcher prise de pas vouloir être trop didactique, de pas vouloir trop en dire, de pas vouloir être trop linéaire, mais de laisser aussi les choses venir comme elles venaient. Et d'accepter que peut-être potentiellement ce serait un peu compliqué à lire. Mais l'idée quand même, c'est de vouloir relire le livre une fois qu'il est fini.
Oui, alors ça c'est absolument vrai. Aussitôt qu'on a terminé, on repart au début. Et c'est vrai que à la fois par moment on est un peu perdu et en même temps il y a quelque chose qui tient tout du long. On est vraiment comme le long d'une route ou plutôt d'un cours d'eau en effet sinueux. C'est très joli parce que le motif de l'eau boueuse, de l'eau contaminée, il est vraiment présent aussi dans le récit. Et puis il y a quelque chose qui nous tient. Dans ces allées venues aussi entre passé et présent, c'est les formes graphiques que vous utilisez pour représenter tout ça. Et il y a vraiment une formidable profusion de styles graphiques, de méthodes, de la peinture, de la gouache, je crois, en couleur, au noir et blanc, mais au sein même du noir et blanc, une variété de techniques absolument phénoménales. Et en même temps, tout ça est très tenu. Chaque technique correspond d'une certaine manière, soit à un temps narratif, soit à un état, on pourrait dire, une humeur presque du récit. Comment est venue l'idée de travailler comme ça? Est-ce que ça, c'était une idée aussi au départ de la conception de cet album?
C'est bien de parler d'humeur. J'avais pas pensé à ce terme-là, mais je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment un ressenti. C'est aussi très instinctif au moment de passer aux planches définitives, donc qui est finalement une période assez courte dans l'élaboration du livre, puisque ça a pris à peu près 11 mois pour faire les planche définitive. Ce temps-là, il est encore plus une route, en fait, où il faut vraiment y aller sans trop réfléchir, d'où l'importance des podcasts pour ne pas trop penser à ce qu'on est en train de faire, mais aussi accepter de se laisser emmener là où on n'avait pas forcément prévu d'aller. Et en même temps, quelque chose de très construit entre, par exemple, le début qui est au stylo bic, parce que s'il y avait cette envie de raconter cette histoire qui s'appuie sur un mythe fondateur de Rémus et Romulus, mais d'une façon qui rappelle aussi la culture pop, avec ses couleurs complètement flashy. Donc, en fait, il y avait toujours une intention de la technique et en même temps un certain lâcher-prise pour laisser passer les émotions.
Le stylo à bic, hein, c'est cette scène d'ouverture que je mentionnais en introduction de cette conversation, qui fait évidemment très 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 fort penser au travail d'Émile Ferris, hein, à sa bande dessinée. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot peut-être sur cette scène d'ouverture? Je disais, en fait, on va comprendre complètement qu'à l'issue du voyage, comment cette scène onirique, elle résonne. Il y a un tigre qui nourrit des bébés à la façon de Romulus et Rémus à Rome. Il se trouve que le tigre, c'est aussi l'un des symboles de la ville de Détroit, de même que le pneu, puisque ça a été une ville qui s'est enrichie notamment beaucoup, puis avant de sombrer par l'industrie du pneu. Comment cette image-là, elle est venue? À quel moment de la création du livre elle est arrivée?
C'est arrivé très vite. C'est Bonny qui a eu cette idée de transposer le mythe romain dans la ville de Détroit, puisque très vite, on a eu envie de faire ce parallèle entre le déclin de la cité américaine et le déclin de la cité romaine. Le stylo bic, c'était aussi cette envie, évidemment, l'hommage à Émile Ferris que j'assume totalement. Je suis complètement folle de son travail, de autant de sa narration que de son trait graphique, mais aussi parce qu'on avait cette idée que c'était donc Becky qui dessine cette histoire, mais bon, on comprend plus tard, bref, et d'avoir un outil qu'on a dans sa trousse, quoi, un outil hyper accessible et qui est du coup cet outil, ce stylo bic qui est très facilement
On peut sortir partout,
oui, et qui voilà,
est très accessible,
ça,
à tous,
qui est très accessible et qui ne coûte pas cher, voilà. Donc ça, c'était l'idée, mais il y avait aussi l'idée de raconter cette histoire. Au début, en tout cas, il y avait beaucoup de textes sur cette première partie qu'on a finalement décidé d'enlever, mais qui était un texte qui pouvait faire penser aux comics, parce qu'on s'était dit peut-être que Becky, en fait, elle écrit un comics en bonne américaine, elle écrit un comics, et donc il y avait un texte un peu en poulet qui en faisait des caisses sur le côté post-apo, et voilà. Et en fait, c'était aussi cette envie de faire entrer la pop culture, les couleurs flashy dans cet univers américain, en fait. Voilà quoi.
Et parmi cette profusion graphique, il y a, à très nombreux moments du livre, qui arrive comme une ponctuation des reproductions d'images de cinéma. Le cinéma est très présent dans le film, et notamment à travers un film en particulier.
All right. Cameras. Act.
Ainsi, elles auront tourné quand même, les caméras. La vie, qui parfois est étrange, avait eu pitié de Norma Desmond. Le rêve qu'il avait si désespérément obsédé se réalisait enfin.
Je ne peux pas jouer, je suis tellement émue. Monsieur DeMille, me permettez-vous de dire quelques mots? Merci. Je voudrais vous dire ma joie de me retrouver parmi vous dans ce studio et de tourner à nouveau. Vous ne pouvez pas savoir combien vous m'avez manqué. Et je vous promets de ne plus déserter à l'avenir. Parce qu'après Salomé, nous ferons un autre film et d'autres films encore. Le cinéma, c'est ma vie. C'est ma raison d'être. Il n'y a rien d'autre. Rien que nous. Et les caméras. Et ce merveilleux public qui, dans la nuit, regarde. Voilà, monsieur DeMille, je suis prête pour mon gros plan.
C'est bien sûr la voix française de Gloria Swanson dans la scène finale et mythique de Sunset Boulevard de Billy Wilder, 1950. Film qui plane de bien des manières sur votre récit, Hélène Usdin, et qui nourrit d'une certaine façon l'un des personnages, qui est le personnage de la mère de Summer, qui s'appelle Gloria. On entend dans ce prénom à la fois peut-être l'hommage à Gloria Swanson, mais par ailleurs Gloria, c'est aussi le titre d'un film de Cassavetes qui est également cité dans le livre. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de travailler cet imaginaire du cinéma? Il se trouve que ce personnage de Gloria, c'est une sorte de Gloria Swanson, mais qui n'aurait pas eu de carrière accomplie. C'est une femme âgée qui, dans le dernier étage de sa grande maison dans les quartiers riches de Détroit, regarde des films toute la journée, et vous reproduisez ce grand écran sur lequel elle regarde un certain nombre de films dont il y a des citations graphiques, et ça va de Lynch à Fellini, en passant par Aldrich. Enfin, on peut s'amuser à reconnaître ces images. Comment vous avez eu l'envie de jouer avec ça? Quel rôle il a pour vous, le cinéma, dans ce récit-là?
Alors, le motif de la vieille femme reclue dans son grenier, vivant sa vie finalement à travers des films, c'était là dès le début. Je pense que voilà, c'est un motif qui m'accompagne d'une certaine façon, et un peu de ma mère aussi dedans.
Ouais, quand je vous entendais parler tout à l'heure de votre mère, voilà. Je me disais, ah, il y a peut-être un lien.
Voilà, pas que, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'accompagne. Bonnie et moi, on est amoureux du cinéma. On est régulièrement au cinéma ensemble. On regarde beaucoup de films. On en parle beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui vit avec nous. Mais après, l'envie de précisément raconter l'histoire de Gloria à travers les films, c'est venu lors de ma résidence à la Villa Médicis en 2023. J'avais postulé justement pour développer ce personnage qu'on savait italien, qu'on savait migrant de Rome pour aller à Rome, en Géorgie. Et donc, vraiment, ce schéma, en tout cas, graphiquement, l'envie de se plonger dans une salle sombre, dans une salle de cinéma, avec le film qui, finalement, va raconter l'histoire de Gloria. Et on comprend aussi, à la fin, que ça peut être lu aussi de la façon dont Summer, sa fille, raconte sa mère.
Oui, parce qu'à la fin, on comprend que Summer, elle fait elle-même un film à partir de
ses films,
tous ces films que regardait
voilà,
sa mère.
Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est venu un peu comme ça, dans une idée...
Une intuition. Mais ce qui est très fort, c'est que nous, lecteurs de ce livre, on se retrouve à projeter sur cette histoire, à nourrir cette histoire de nos propres souvenirs, de notre propre imaginaire du cinéma, notamment hollywoodien. Et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est la manière dont le récit y déconstruit d'une certaine manière cet imaginaire-là, qui est une histoire de l'Amérique fantasmée, idéalisée aussi.
Alors voilà, l'autre chose super intéressante à travailler avec le cinéma américain, c'est effectivement que toute l'histoire américaine s'est construite, le mythe américain s'est construit aussi grâce au cinéma, du western à Hollywood, on peut dire, aujourd'hui. Et donc ça, c'était pour nous très intéressant de s'appuyer sur cette culture populaire, de toutes ces images que tout le monde connaît, de tous ces films qu'on a en tête, où chacun peut effectivement venir y poser son propre imaginaire, ses propres souvenirs. Donc après, le travail, ça a vraiment été de choisir quelle scène on allait mettre de quel film, parce qu'on a beaucoup de films qui nous sont venus en tête, évidemment, et qui soient des scènes qui n'en disent pas trop non plus, en fait, pour vraiment laisser la place au lecteur de se projeter, de convoquer lui-même, en fait, ses souvenirs par rapport à ce cinéma. Donc ça, oui, clairement, le cinéma permet ça, en fait, permet toute cette mythologie, toutes ces images qu'on a en mémoire et qu'on peut venir chercher pour raconter une histoire.
Ouais. Et ça commence par l'image finale de Thelma et Louise, ouais. Et on a immédiatement, du coup, en mémoire, ou nous arrive même d'un point de vue de la sensation, le souvenir de la trajectoire de ces deux jeunes femmes, et même si leur fin est tragique, comme on s'en souvient sans doute, il y a aussi le souffle de liberté qui les traverse dans ce film. On a parlé du fait qu'il y avait l'utilisation du noir et blanc et de la couleur. Je vous propose qu'on écoute le peintre David Hockney dans un extrait du documentaire Bigger Picture qui est signé Bruno Vollheim. C'était en 2009. On pense beaucoup à David Hockney à la lecture de ce livre.
I was driving along with Stephen, his son, you know, and I was taking them on a drive in the evening where the light, you know,
je conduisais avec Steven. Je l'emmenais faire un tour en fin de journée. Nous allions voir un coucher de soleil. Et je lui ai dit, regarde la couleur de la route en ce moment. Elle est presque violette, n'est-ce pas? 10 minutes plus tard, maintenant regarde la couleur de la route. Elle est totalement différente. Plus tard, il m'a dit, je n'avais jamais pensé à la couleur d'une route. Il a ajouté, maintenant, chaque fois que je conduis, je me demande de quelle couleur est la route. Il y a aussi autre chose. Peut-être que, voyez-vous, il ne l'avait même pas vraiment vu. On voit, mais tant qu'on n'y pense pas, cela ne signifie pas grand-chose. Si l'on vous demandait la couleur de la route, vous ne pourriez répondre qu'après l'avoir regardée de nouveau. Ce n'est pas un détail qui retient spontanément l'attention. Et d'ailleurs, pourquoi s'y attarderait-on? Les gens, en général, pourquoi s'y attarderaient-ils? Mais lorsqu'on la peint, on commence forcément à s'interroger. Quelle est réellement sa couleur? Et bien sûr, les routes changent constamment de couleur, tout dépend du ciel. Partant de pluie, la route peut devenir la chose la plus lumineuse qui soit, parfois plus lumineuse encore que le ciel.
David Hockney, dans ce documentaire sorti en 2009, donc qui racontait là la création de ce tableau qui s'appelle Garrowby Hill, qui représente une route sinueuse peinte en violet. On pense très vite à David Hockney en tournant les pages de cet album de bande dessinée, Hélène Usdin. Je pense notamment à une planche que j'ai sous les yeux là, qui arrive au tout début de l'histoire, où ces deux jeunes femmes sont dans un motel où il y a une piscine vidée, et immédiatement arrive en mémoire le tableau si célèbre de David Hockney qui représente cette piscine dans laquelle un homme plonge ou vient de plonger à Bigger Splash. Est-ce que c'était une référence pour vous? Est-ce que ça a nourri votre manière de travailler, notamment les couleurs dans cet album?
Oui, merci pour l'extrait. C'est hyper parlant pour moi tout ce qu'il dit, effectivement. Mais j'ajouterais qu'une couleur, en fait, elle est rien en soi. En fait, elle est toujours là avec les couleurs environnantes, en fait. Et ça, c'est vraiment ma façon à moi de travailler les couleurs. C'est effectivement ne pas s'arrêter à la façon dont on doit représenter un ciel, une route, un arbre, mais effectivement, c'est toute la sensation d'un arbre après la pluie, d'une route mouillée, d'une piscine vidée, enfin voilà, toutes ces choses-là qui appellent des couleurs qui ne sont pas forcément les couleurs attendues. Donc effectivement, David Hockney, pour moi, c'est une référence ultime. Je suis vraiment admiratif de la façon dont il a eu de travailler, autant ses portraits au crayon d'ailleurs que la façon dont il a d'utiliser la couleur. Après, il y a beaucoup de peintres américains dont je dont j'aime le travail, mais pas que des peintres. En fait, je pense aussi que la culture populaire, que ce soit par exemple les dessins animés, ne serait-ce que Tex Avery, en fait, qui arrive à faire des personnages en fait ultra expressifs par les déformations du visage, des corps. Je pense qu'aussi c'est des techniques que j'aime mélanger à des références beaucoup plus académiques ou en tout cas beaucoup plus propres, je sais pas comment appeler ça, que peuvent être la peinture de David Hockney, de Hopper, mais peut-être plus récemment aussi de Henry Taylor, qui est un peintre que j'ai découvert à New York en ayant eu la chance de voir son exposition en 2023 et qui peint en fait toute sa famille noire en fait. Et c'était très intéressant aussi pour moi d'aller voir ses peintures pour savoir comment on peint une peau qu'on a peut-être moins l'habitude de voir en tableau, qui est la peau noire, mais la peau un peu plus claire, enfin je veux dire toutes les nuances de noir.
Donc on a moins l'habitude de voir en tableau, y compris hors d'un regard qui est un regard occidental.
Exactement.
Ou colonisateur.
Voilà, c'est ça. Et comment s'approprier aussi ces visages, ces différentes teintes de couleurs. Et aussi, je pense à cette artiste peintre Alice Neel, qui est aussi pour moi une très grande référence dans la façon dont elle a de travailler les portraits, dans le geste, dans le côté urgent aussi qu'elle a de pas finir forcément ses toiles, notamment un portrait de Andy Warhol qu'elle a laissé comme ça complètement en lévitation sur une banquette, pas fini, et qui offre en fait un regard très vulnérable en fait à ces personnes qu'elle peint. Et puis le visage peut être vert, les ombres peuvent être bleues. Enfin, il y a comme ça une liberté en fait dans la couleur qui pour moi est complètement inspirante. Mais aussi chez Léna Bis, dans les peintres du 19e en France.
Ce que vous dites là me fait penser à la manière dont vous travaillez effectivement de plein de façons différentes, là encore, les visages et les corps de vos deux héroïnes principales. Il y a notamment un moment où vous représentez le visage de l'une d'entre elles sans que les yeux, les pupilles ne soient dessinées, et ça produit un effet hyper saisissant pour nous. Est-ce que ça vous venait d'une inspiration graphique précise, singulière, ou est-ce que c'est arrivé comme ça au fil du travail?
Alors je pense que autant dans la première bande dessinée René au bois dormant ou dans Détroit Roma, il y a plein de choses qui arrivent de façon très instinctive que je pourrais pas forcément relier à un travail précisément ou à un peintre ou à un dessinateur. Mais je pense par contre que le bagage de souvenirs de toutes les expositions, de toutes les images que j'ai pu voir sont forcément là et ressortent sans vraiment que je le contrôle à travers mes dessins. Dans René au bois dormant, on m'a parlé pour l'une des créatures du cri de...
De Munch ?
De Munch aussi, mais dans les couleurs. En fait, oui, justement, il y a aussi tout cet expressionnisme allemand qui m'inspire beaucoup, que ce soit Autodix, Gross, Munch, Vlaminck, enfin voilà, tout ça, c'est des palettes que j'aime bien. Mais ce que je voulais dire par rapport à Bacon, c'est ce tableau qu'il a fait avec un corps qui n'est plus vraiment un corps, avec juste une bouche, et donc c'est le cri. C'est peut-être pas avec ça exactement le titre, enfin bon, bref. Et donc, sans vraiment le conscientiser, j'ai utilisé ce tableau dans une de mes créatures. Donc, les yeux manquants de Becky, qui finalement fait la couverture du livre, c'est pas quelque chose auquel j'ai réellement pensé, c'est quelque chose qui est venu dans le geste de la peinture, en fait.
Et puis, il y a aussi des croquis pris sur le vif de plein de personnages, croquis qui sont, je crois, pour le coup, signés Bonnie, dont on a parlé, donc votre co-auteur est néanmoins fils, ou fils est néanmoins co-auteur, et qui ponctue le récit d'une manière très singulière. Mais le book club continue. À cette heure-ci, chaque jour, dans l'émission, nous faisons l'écho d'événements culturels en lien avec la lecture et le livre. C'est notre agenda. Il se trouve que votre travail, Hélène Usdin, va être richement exposé dans les temps à venir. Lorsque la BD s'expose, c'est souvent très passionnant. Voir des planches originales, comprendre les processus de fabrication des albums sur pièce, c'est génial. On vous signale donc aujourd'hui 3 événements jusqu'au 20 mars. On peut voir au Centre culturel André Malraux de Nancy une exposition qui s'appelle « On the Road Again », une plongée Dans votre univers, j'en lis la présentation, pensée comme une invitation au voyage. Cette exposition entraîne dans un monde fait de déplacements, de glissements, de continents en narration et de compositions en gamme chromatique. On peut y voir comment les dessins naissent le plus souvent sans crayonner préalable et comment vous travaillez la couleur. C'est en entrée libre en partenariat avec la librairie La Parenthèse. L'album dont nous avons parlé aujourd'hui des Trois Romains fera quant à lui l'objet d'une exposition spécifique du 26 mars au 30 avril au musée de Bastia, et ce dans le cadre de la 33e édition du Festival BD de Bastia, dont vous avez aussi réalisé l'affiche Hélène Usdin. Ce sera l'occasion de découvrir les planches originales de cet album et tout le travail photographique dont on parlait tout à l'heure, réalisé à Détroit. On pourra aussi y entendre le travail de composition musicale réalisé par Bonnie, votre fils. Vous mènerez d'ailleurs tous les deux à cette occasion un concert dessiné à Bastia. Chanceux seront ceux qui peuvent y assister. Enfin, du 28 mars au 27 juin, la galerie Barbier à Paris vous consacrera aussi une exposition.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Et chaque jour, à 7h, vous le savez peut-être, on joue dans cette émission à notre grand jeu des pages musicales. Si au détour d'une lecture, vous tombez sur une citation d'un extrait musical, d'une chanson, faites une photo du passage que vous avez sous les yeux et envoyez-la nous via Instagram ou bien à l'adresse mail lebookclub@radiofrance.com. On pioche chaque jour dans les suggestions que vous nous envoyez pour nous quitter en musique. Aujourd'hui, on n'a pas résisté au plaisir de piocher dans votre album de bande dessinée, Hélène Usdin. Il y a beaucoup de musique dans Des Trois Romains. On a entendu tout à l'heure Jill Scott Heron. Parmi les chansons citées, un titre que votre auteur Bonnie, qui est aussi musicien, a composé tout spécialement pour ce livre. Il intervient à la fin de cette histoire. C'est Becky, comme toujours, qui raconte ce moment où les deux jeunes femmes quittent Détroit et se lancent dans le voyage. Dans la soirée du 8 juillet, Summer vint me chercher chez moi. Elle me dit de prendre un sac avec de quoi tenir quelques jours. On partait en voyage. Je compris que je n'avais pas vraiment le choix. Ça m'allait très bien. Nous passâmes ensuite chez elle. La maison était vide. Kirk était à son concert des Stones et Gloria dans l'urne. Avec pour tout bagage mes cartes, mon carnet à dessin, deux sacs et les cendres de Gloria, nous prîmes la route. Summer days are cold when you're on your own, so I dream of gold, a city they called Rome. Rusty town in snow, old faces I know, only once I go, I'll call them home. Nous avions roulé toute la nuit en direction de l'ouest. Au bout de notre route, le jour se levait sur le lac Michigan. L'Eldorado Motel fut notre première étape.
Drawing if it sits on the shelf, I try to call you. I have some.
un très très grand merci Hélène Usdin.
Merci à vous. Merci
d'avoir été avec nous aujourd'hui. Détroit Roma, c'est le titre de cette bande dessinée qu'on recommande chaleureusement. Vous la co-signez avec Bonnie, elle a paru aux éditions Sarbacane et on recommande tout aussi chaleureusement votre première bande dessinée, celle d'avant qui s'appelait René au bois dormant chez le même éditeur. Aujourd'hui à la réalisation c'était Vivien Demeyer, à la prise de son Marie-Claire Oumabadi. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et particulièrement aujourd'hui à Léa Weissgruss. Merci aussi à Alexandra Lajbegovic qui poursuit la conversation avec vous sur le compte Instagram de l'émission.